Ce soir, on va parler d'un sujet qui n'est pas très original. La mort de Jésus. Alors, si vous êtes des habitués de l'Église, vous êtes peut-être en train de vous dire, bon, ben, c'est bon, je peux m'endormir tout de suite, la mort de Jésus, de toute façon, on en parle tous les dimanches. Et même plusieurs fois par dimanche, et même pratiquement à chaque fois qu'on se réunit en semaine dans les groupes de maison. Je pense que j'ai entendu tout ce qu'il y avait à dire sur la mort de Jésus. Finalement, la mort de Jésus, quel sujet banal, quelque part. Mais si vous n'êtes pas un habitué de l'Église, si c'est la première fois que vous venez, ou si vous n'êtes même pas encore un chrétien, ben, je vais vous dire d'abord qu'on est ravis que vous soyez présents avec nous ce soir. Mais peut-être que pour vous aussi, la mort de Jésus, ça ne semble pas être un sujet très intéressant. Pourquoi ? Parce que la mort de Jésus, en fait, elle a été banalisée un peu partout. Un peu partout. Dans l'imaginaire collectif, comme on dit, ben Jésus, c'est bien ce gars qui a été crucifié. Tout le monde le sait. C'est le héros des chrétiens qu'on représente généralement cloué sur une croix, comme par exemple la statue qui figure en façade de l'église Saint-Antoine, qui est au-dessus de nous. Hein, vous l'avez peut-être remarqué en arrivant. Si ça fait longtemps que vous venez, vous l'avez sans doute déjà remarqué, ce grand crucifix. Tout le monde se représente ainsi, Jésus, cloué sur une croix. Ce motif de la croix, d'ailleurs, qui est l'instrument de l'exécution de Jésus, on le retrouve partout, ce motif, que ce soit le logo de la croix rouge, la croix verte des pharmacies, la croix blanche des secouristes, que ce soit les innombrables pendentifs reproduisant la croix, mais souvent portés sans aucune arrière-pensée religieuse, que ce soit les croix qu'on retrouve dans plein de drapeaux nationaux, comme celui, par exemple, du Royaume-Uni, de l'Espagne, de la Suisse, de la Grèce, du Danemark, de la Norvège, de la Finlande, de la Suède, de la Slovaquie, etc., etc., que ce soit encore la croix celtique, utilisée notamment par certains groupes identitaires d'extrême droite, que ce soit les croix baroques qui figurent sur les pochettes de certains albums et sur certains t-shirts de groupes de heavy metal. Il y a même des gens qui font des caricatures, qui font des sketchs ou des blagues sur la crucifixion de Jésus. Voilà, la mort de Jésus a été banalisée. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on en parle moins ? Non, ça veut dire qu'il faut qu'on en parle mieux. Et le texte d'aujourd'hui, qu'on va lire dans un instant, va nous aider à faire ça. Va nous aider à parler mieux de la mort de Jésus. Si vous venez régulièrement à l'église ici, vous savez déjà qu'on est en train d'étudier l'évangile selon Matthieu, qui est la première section du Nouveau Testament. Et si vous avez suivi un peu cette série, vous savez que tout le récit de l'évangile selon Matthieu tend vers le moment de la mort de Jésus. On sait déjà que Jésus est venu accomplir une mission particulière qui va impliquer sa mort. Jésus lui-même l'a annoncé d'avance à ses disciples. Et donc, avec cet épisode maintenant qu'on est sur le point de lire, qui va nous rapporter le moment de sa mort, on est vraiment, et je veux que vous compreniez ça, on est vraiment au paroxysme de cette histoire. C'est le 27e chapitre, donc il y en a eu de l'histoire qui s'est passée jusqu'ici. Mais on va arriver maintenant au paroxysme de cette histoire ici. Jésus accomplit ce pourquoi il est venu. Il accomplit ce pourquoi il est né à Bethléem de la Vierge Marie. Et comme on va le voir, ce passage veut corriger la tendance que nous avons à banaliser les souffrances et la mort de Jésus en nous rappelant la portée extraordinaire de ce qui s'est passé lorsque Jésus a été crucifié. La leçon, elle est simple, c'est que la mort de Jésus coïncide avec le plus grand tournant dans l'histoire de l'humanité. En tout cas, dans l'histoire, pourrait-on dire, ordinaire de l'humanité. Et si nous en prenons vraiment conscience de cela, eh ben, nous ne pourrons plus jamais prendre à la légère ou banaliser les souffrances et la mort de Jésus-Christ. Alors, lisons ce texte, on est dans l'évangile selon Matthieu, c'est donc la première section, le premier livre du Nouveau Testament, qui constitue la deuxième partie de notre Bible. L'Ancien Testament précède la naissance de Jésus, le Nouveau Testament vient après la naissance de Jésus, historiquement. Et donc on va lire au chapitre 27 de cet évangile selon Matthieu, les versets 27 à 56. Nous lisons ici la parole de Dieu. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite, puis ils s'agenouillèrent devant lui en se moquant de lui et en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu dit Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse la parole du prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. On plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent alors crucifiés deux brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Et les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani » C'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient « Il appelle Eli ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres dirent « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver !» Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus. Et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent « Il était vraiment le Fils de Dieu !» Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, celles-là même qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Nous arrêtons ici la lecture de la parole de Dieu. Je vous invite à prier avant d'aller plus loin. Merci notre Dieu, notre Père, de nous avoir donné ta parole sous la forme de ces textes que tu as inspirés à tes prophètes et à tes apôtres. Seigneur, maintenant, s'il te plaît, utilise cette parole puissante et efficace. Utilise-la pour nous sanctifier, s'il te plaît. Utilise-la pour nous édifier, nous faire grandir dans notre foi. Permets, Seigneur, qu'à travers la méditation de ta parole, nous puissions Père Céleste, mieux contempler ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Augmente notre reconnaissance, s'il te plaît, pour ce qu'il a accompli pour nous. C'est en son nom que nous prions. Amen. Alors la première chose que l'auteur, qui est l'évangéliste Matthieu, l'apôtre Matthieu, la première chose qu'il veut nous montrer dans ce texte pour nous faire prendre conscience de la portée extraordinaire de la crucifixion de Jésus, la première chose qu'il veut nous montrer, c'est que Jésus n'est pas seulement mort sur la croix, si j'ose dire. Il n'est pas seulement mort sur la croix. Vous avez remarqué sans doute que l'auteur consacre une bonne partie de cet épisode à nous décrire l'humiliation que Jésus a subie avant d'être techniquement crucifié. Et même, d'ailleurs, une fois qu'il a été crucifié, mais avant de mourir. L'auteur nous décrit cette humiliation subie par Jésus. Il y a d'abord les soldats romains qui se moquent de lui. Ensuite, il y a les passants, parmi lesquels il y a vraisemblablement beaucoup de juifs, qui apparemment ont écouté Jésus quand il prêchait, parce qu'ils savent un petit peu de quoi il a parlé quand il prêchait. Puis il y a aussi les responsables religieux, hein, les scribes et les pharisiens et les anciens du peuple qui se moquent de lui, et même les brigands qui ont été crucifiés avec lui, nous dit le texte ici, se moquent de lui. Et au plus fort de sa souffrance, lorsque Jésus a l'impression que même Dieu l'a abandonné, Quelqu'un va même le tourmenter davantage en lui offrant du vinaigre à boire, tandis qu'un autre, semble-t-il, tourne en dérision le cri le plus poignant qui a jamais été poussé. Élie, Élie, lema sabachthani. Et il tourne ça en dérision, dire ah, il appelle Élie, alors que pas du tout. Élie, Élie, ça veut dire mon Dieu, mon Dieu. Le monde entier est contre lui. Jésus, le Messie, tant attendu, et ça on le sait si on avait lu tout le récit jusqu'ici, le Messie tant attendu, le juste, le prophète comme Moïse, celui qui est venu sauver son peuple, se fait clouer sur une croix et tout le monde est contre lui. Les païens comme les juifs, les notables comme le peuple, les personnes religieuses comme les plus vils pécheurs. Même ses disciples ne sont plus là, ils l'ont abandonné déjà, et même le Père Céleste, en quelque sorte, lui a tourné le dos. Jésus n'a pas juste été crucifié, vous voyez. Et il est évident que l'auteur veut nous faire prendre conscience ici de l'intensité des souffrances de Jésus. Il veut en fait qu'en lisant ce texte, on soit très mal à l'aise, très mal à l'aise. C'est comme lorsque la presse, vous savez, nous rapporte la souffrance de ses enfants à Alep, en Syrie. Ça nous fend le cœur. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais c'est pas juste. C'est même insupportable d'imaginer ces pauvres enfants qui n'ont rien demandé à personne, de les voir devenir l'objet de telles violences, de telles souffrances. Il y a un contraste, vous voyez, saisissant entre l'innocence de la victime et l'horreur de la violence que la victime subit. Et ça, c'est notre réaction normale, n'est-ce pas, lorsqu'on voit ça aux actualités, au journal télévisé le soir à la télé. Et ici aussi, il y a un acharnement contre Jésus, alors qu'il est innocent, on le sait très bien, il est innocent, il est juste, il n'a jamais fait que le bien. Alors même qu'il est venu de la part de Dieu comme le sauveur du monde, et de le voir faire l'objet d'une telle violence, d'une telle souffrance, c'est censé nous fendre le cœur. Jésus n'est pas seulement mort sur la croix, si j'ose dire. Vous voyez? Sa souffrance n'a pas juste consisté à mourir. En fait, la mort, dans ce texte, met un terme à sa souffrance. La mort a été l'issue de sa souffrance. La mort a délivré Jésus de son agonie. L'auteur veut nous montrer ici que ce qui est important, ce n'est pas juste que Jésus est mort, mais c'est qu'il a tant souffert en mourant. Si tout ce qui était important, c'était que Jésus meure, on aurait pu imaginer une crucifixion beaucoup plus sobre, si j'ose dire. Hein. Dieu aurait pu préserver Jésus d'un tel acharnement. Il aurait pu y avoir une sorte de dignité dans cette exécution, n'est-ce pas? On pourrait imaginer que les soldats romains, ils aient conduit Jésus à la croix avec une sorte d'attitude résignée, juste parce qu'ils doivent obéir aux ordres. On aurait pu imaginer que les responsables religieux, qui sont, on l'a vu l'autre fois, étaient finalement les principaux responsables de cette mise à mort, on aurait pu imaginer qu'ils aient des scrupules, plutôt que la façon dont ils font les fiers ici dans cette histoire en se moquant de Jésus dans son agonie. Et les passants en particulier, les gens comme vous et moi, les habitants de Jérusalem, auraient pu verser une larme. Il aurait pu y avoir une ambiance pesante comme celle qui entoure la mort d'un héros qui s'offre en sacrifice pour les autres. Mais non, là c'est pas le cas. Là, Jésus est moqué, humilié, tourmenté jusqu'au bout. L'auteur veut nous montrer que la souffrance de Jésus a été complète. Sa souffrance a été complète. Jésus est en train d'accomplir ce pourquoi il est venu, et cette mission qu'il est venu accomplir en notre faveur n'implique pas juste sa mort. Elle implique toute cette souffrance qui a précédé et accompagné sa mort. Cette souffrance physique, émotionnelle, psychologique et même spirituelle. L'auteur veut vraiment qu'on comprenne que Jésus a souffert à tout point de vue. Il a souffert à tout point de vue et il veut qu'on comprenne qu'il n'en fallait pas moins pour qu'il accomplisse sa mission. C'est comme si on vous offrait à Noël une superbe bague en or sertie d'un magnifique diamant. Imaginez ça. Vous seriez reconnaissant, n'est-ce pas? Waouh, merci, ça a dû coûter cher, non? Oui, ça coûtait cher. Mais même plus cher que tu le crois. Parce que cette bague, je ne l'ai pas acheté chez le bijoutier du quartier. Je suis allé à l'autre bout du monde, dans un pays dangereux. J'ai traversé la jungle, j'ai combattu des sauvages sanguinaires. J'ai réussi à découvrir l'entrée d'un, d'un palais mystérieux, où j'ai rencontré un sorcier centenaire qui veillait sur cette bague qui avait été préservée là, d'ailleurs, depuis des générations, depuis qu'elle avait été façonnée par un chef maya en l'an 2000 avant Jésus-Christ. Et j'ai pu obtenir cette bague en échange de 3 sacs de pépites d'or et de quelques gouttes de mon sang. Donc tu vois, cette bague, ouais, elle a coûté cher, mais plus cher que tu le crois. Vous voyez, quelque chose qui nous semble précieux, peut-être encore plus précieux qu'on le croit. Et c'est la même chose avec les bienfaits qui nous viennent de la mort de Jésus. On sait que ça a coûté cher. Jésus, notre Seigneur, est mort. Ça a coûté cher, quel prix, n'est-ce pas? Mais ça a coûté encore plus cher qu'on a tendance à le croire. Parce qu'on sous-estime l'intensité des souffrances, en fait, par lesquelles Jésus a dû traverser, qu'il fallait qu'il traverse pour accomplir ce pourquoi il était venu. D'accord, la souffrance de Jésus a été complète. Il a souffert à tout point de vue et il n'en fallait pas moins pour qu'il accomplisse sa mission. Mais qu'est-ce qu'il a accompli exactement par ses souffrances ? Eh bien, la suite du texte nous le montre. Au verset 50, le texte nous dit que Jésus rend l'esprit, c'est-à-dire qu'il meurt. L'agonie de Jésus vient d'atteindre son terme, sa destination, son but, si vous voulez. Et c'est précisément à ce moment-là que l'auteur nous dit qu'il s'est passé quelque chose à un autre endroit de Jérusalem. Là où Jésus meurt, et il est sur cette colline appelée Golgotha, le lieu du crâne. Mais là, il ouvre une parenthèse, il fait une remarque, l'auteur, pour nous indiquer qu'il s'est passé quelque chose d'autre à ce moment-là, à un autre endroit à Jérusalem. En fait, ça se passe au temple de Jérusalem. Et là, nous dit-il, un rideau s'est déchiré en deux de façon miraculeuse du haut en bas. Il nous dit du haut en bas parce que pour nous prouver que c'est un miracle, parce que c'est impossible de déchirer humainement un rideau du haut en bas lorsqu'on est en bas du rideau, n'est-ce pas ? Et ce qui se passe ici est extrêmement significatif, surtout pour les premiers destinataires de ce récit. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire que l'évangéliste Matthieu, il écrit en ayant à l'esprit en particulier la population juive de son époque. Et il fait un récit pour les convaincre que Jésus est le Messie tant attendu. Donc il a à l'esprit, là, dans ses pensées, ces destinataires-là que sont les juifs de son époque. Et pour ces juifs-là, ce qu'il dit ici est extrêmement significatif, parce que les juifs savent, en effet, ils savent exactement ce que représente ce rideau ou ce voile dans le temple dont il est question ici. C'est ce rideau épais, ce rideau solide et robuste qui sépare un endroit particulier qu'on appelle le lieu très saint ou le saint des saints du reste du temple. C'est-à-dire qu'il y avait cet endroit au cœur du temple des Juifs à Jérusalem, cette pièce en quelque sorte qui symbolisait la présence spéciale et glorieuse de Dieu. Et personne, tenez-vous bien, personne ne pouvait entrer dans cette pièce, sauf une personne qui avait une fonction particulière. C'était cette personne qu'on appelait le grand prêtre, le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le chef des prêtres, le responsable, le patron des prêtres, et même lui, il ne pouvait pas y entrer quand il voulait. Il pouvait y entrer, mais une seule fois par an. D'ailleurs, il devait y entrer une fois par an, un jour précis de l'année, le jour qu'on appelle le grand jour des expiations, que les Juifs appellent encore aujourd'hui Yom Kippour, et ce grand prêtre entrait dans ce lieu très saint, avec le sang d'un taureau et d'un bouc, et il présentait symboliquement ce sang à Dieu, pour expier les fautes de son peuple, y compris les siennes d'ailleurs. Et de cette façon-là, ce qui se passait, c'est que ce grand prêtre, c'était expliqué dans la Torah, dans le livre du Lévitique d'ailleurs, dont il a été question tout à l'heure, ce qui se passait, c'est que ce grand prêtre rendait Dieu propice au peuple, il le rendait favorable au peuple en présentant ce sang qui était le sang d'un sacrifice, vous comprenez ? En même temps, la présence de cette pièce, de ce voile et de ce rite annuel montrait aux gens qu'il y avait toujours une espèce d'abîme infranchissable entre Dieu et les hommes. Dieu étant trop pur pour autoriser le mal en sa présence, et les hommes étant trop pécheurs pour s'approcher de Dieu, forcément il y a cet abîme infranchissable entre les deux, symbolisé donc par cette pièce retirée au cœur du temple, avec ce gros rideau, ce gros voile qui séparait les deux espaces, et qu'on ne pouvait pas franchir comme on voulait, qu'on ne pouvait franchir que selon certaines conditions très, 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 très strictes, et qu'une seule personne d'ailleurs. Il fallait donc ce grand sacrifice annuel, Et il fallait d'ailleurs plein d'autres sacrifices quotidiens dans le temple pour représenter aux gens le prix qui devait être payé pour qu'il puisse y avoir une relation entre les hommes et Dieu. Ça ne pouvait pas se faire facilement. Et là, au moment donc où les souffrances de Jésus ont atteint leur terme, au moment où, comme on dit, le calice est bu jusqu'à la lie, au moment où Jésus en avale la dernière goutte de cette coupe, de ses souffrances, l'auteur nous dit à ce moment-là que ce fameux voile dans le temple est déchiré, de haut en bas. Ce qui vient de se passer, c'est que les souffrances de Jésus ont atteint leur paroxysme lorsqu'au verset 46, Jésus a l'impression d'être abandonné de Dieu lui-même. Ce qui se passe ici, en fait, mes amis, c'est que Jésus fait l'expérience de l'enfer. Il fait l'expérience de l'enfer ici. Il a pris sur lui les péchés de tous les croyants, de toute l'histoire, et il reçoit en lui-même, dans sa nature humaine, il reçoit le jugement de Dieu à l'encontre de ses péchés. Pourquoi ? Ben, pour nous en délivrer. Par son sang qui a coulé sur la croix, Jésus vient d'offrir un sacrifice infiniment meilleur que celui des taureaux et des boucs. Un sacrifice d'expiation d'une valeur telle que le rideau qui sépare les hommes de la présence spéciale et glorieuse de Dieu, ce rideau n'a plus lieu d'être. Tellement le sacrifice présenté par Jésus a une valeur supérieure, infiniment supérieure, à tous les sacrifices de tous les taureaux, de tous les boucs, de tous les béliers, de tous les oiseaux, de tout le reste qu'on offrait à Dieu au temple de Jérusalem. Maintenant, par Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu librement. Si nous nous appuyons sur lui, si nous nous appuyons sur Jésus et sur ce qu'il a accompli, nous pouvons être certains que sa souffrance expie nos péchés et que Dieu nous autorise en sa présence. Expie nos péchés, ça veut dire en quelque sorte efface nos péchés, compense pour nos péchés. Et maintenant, Dieu nous autorise en sa présence. Ce que l'auteur nous montre ici, après nous avoir montré donc que la souffrance de Jésus était complète, c'est que la souffrance de Jésus est aussi suffisante. C'est-à-dire qu'elle a accompli ce que Jésus était venu accomplir, à savoir le déchirement du voile. Cette séparation millénaire entre les hommes et Dieu qui remonte au péché d'Adam et Ève lorsque cette relation personnelle que l'homme avait avec Dieu a été brisée par la faute de l'homme, et bien cette séparation, cette rupture a enfin été réparée par les souffrances de Jésus. Cette intervention de Dieu dans l'histoire des hommes pour accomplir une fois pour toutes tout ce qui était nécessaire pour que la relation entre les hommes et Dieu puisse être rétablie, cette intervention de Dieu promise dans l'Ancien Testament à de maintes reprises à travers les prophètes, cette intervention de Dieu est enfin arrivée, enfin ! Et c'est ça qu'on est censé se dire quand on lit cet épisode et que Jésus rend l'esprit après avoir atteint le paroxysme de ses souffrances et que le voile est déchiré. Enfin ! L'auteur veut qu'on fasse l'expérience de ce soulagement et de cette joie indescriptible à l'idée que ce dont nous avions tant besoin est venu. C'est comme si vous étiez gravement malade et que vous attendiez depuis des années une greffe d'organe. Et comme souvent, l'organe qui sera précisément compatible avec votre groupe sanguin ou votre ADN, c'est pas quelque chose que vous pouvez aller acheter en fait au Carrefour Market du coin. Ça c'est pas si facile, c'est pas si simple. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous allez attendre, n'est-ce pas? Attendre jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, vous attendez que votre médecin vous appelle pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle. On va enfin pouvoir vous opérer et vous guérir de votre maladie. On a trouvé cet organe compatible avec votre groupe sanguin ou votre ADN. Je ne suis pas trop sûr comment ça marche. Je m'en réfère aux médecins dans la salle ici. Et le peuple d'Israël, dans tout l'Ancien Testament, attend aussi cette bonne nouvelle. Et à travers le peuple d'Israël, ce n'est pas juste les Juifs qui attendent. C'est toute l'humanité qui attend, depuis des siècles, pour ne pas dire des millénaires, cette bonne nouvelle. Et enfin, au premier chapitre du Nouveau Testament, l'ange apparaît à Joseph dans un songe et lui dit « Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et on lit toute l'histoire et on arrive au chapitre 27 du même récit après que ce Jésus a parachevé ses souffrances sur la croix. Et là, On a toutes ces références, vous l'avez remarqué d'ailleurs dans ce chapitre, à toutes ces prophéties de l'Ancien Testament qui sont en train de se réaliser. Et là, l'auteur nous dit, verset 51, « Voici le temple, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. » Enfin ! Enfin ! Dans ce passage, l'auteur veut donc nous faire prendre conscience de la portée extraordinaire de la crucifixion de Jésus, en nous rappelant premièrement que la souffrance de Jésus a été complète, c'est-à-dire qu'il n'en fallait pas moins pour accomplir ce qu'il était venu accomplir, et en nous rappelant deuxièmement que la souffrance de Jésus a été suffisante, c'est-à-dire qu'il n'en faut pas plus pour accomplir ce qu'il était venu accomplir. Vous voyez, le voile, il est déchiré, il a été déchiré, c'est fait une fois pour toutes. Mais il y a encore un élément sur lequel je voudrais attirer votre attention rapidement avant de conclure. C'est le fait qu'immédiatement après la mort de Jésus, il y a des choses remarquables qui se passent et que l'auteur prend soin de nous rapporter. Un tremblement de terre, des tombeaux qui s'ouvrent avec des gens qui reviennent à la vie, la garde romaine qui fait en quelque sorte volte-face et qui maintenant prononce une sorte de profession de foi en Jésus. Et puis l'auteur mentionne aussi la présence de plusieurs femmes qui observaient tout ça, dont, nous dit-il, les femmes qui, au chapitre suivant, seront les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Je crois que ce que l'auteur est en train de nous montrer ici, c'est que immédiatement après l'achèvement des souffrances de Jésus, il y a comme un retournement de situation qui s'est enclenché. J'ai même envie de dire un retournement de situation cosmique, à l'échelle cosmique, qui s'est enclenché immédiatement après que les souffrances de Jésus aient atteint leur terme. Dans ces quelques versets, l'auteur nous décrit le caractère efficace des souffrances de Jésus, c'est-à-dire que ces souffrances produisent un effet puissant, qui est d'ailleurs souligné par ce tremblement de terre, et qui est décrit ici sous forme de prémisse, hein, en quelque sorte, de façon emblématique, un peu comme des signes annonciateurs de l'efficacité, de ce qui va découler à terme de l'œuvre de Jésus à la croix. Il y a d'abord, vous voyez, ces croyants décédés qui reviennent à la vie. Il s'agit vraisemblablement de gens qui étaient morts depuis peu. Alors, il y a un peu de spéculation ici, parce qu'on n'est pas trop sûr de quoi il s'agit, mais qui reviennent de la mort un peu comme Lazare que Jésus avait ressuscité, alors qu'il avait été mort déjà depuis quelques jours. C'est un peu mystérieux ce qui se passe ici, mais il ne s'agit sûrement pas d'une résurrection définitive, mais plutôt de ce qu'on pourrait appeler une sorte de ressuscitation. Ces gens-là vont vraisemblablement mourir de nouveau. Mais néanmoins, leur retour à la vie, comme celui de Lazare, c'est un témoignage de la puissance vivifiante de l'œuvre de Jésus, accompli par ses souffrances à la croix. C'est comme un signe spectaculaire qui pointe en fait vers la résurrection finale et glorieuse promise à tous les croyants en vertu de la mort et de la résurrection de Jésus lui-même. Et puis il y a aussi ces Romains qui reconnaissent que Jésus est vraiment le Messie, celui-ci est le Fils de Dieu, c'était un des titres du Messie, Fils de Dieu. Et il y a là aussi un signe qui pointe vers l'évangélisation des nations, des peuples non-juifs, et qui pointe vers le déploiement du règne de Jésus dans le monde entier. Ici, on a des Romains, c'est l'ennemi du peuple d'Israël ici, mais qui reconnaît que Jésus est le Messie, en tout cas qui lui attribue, en tout cas en parole, un titre réservé au Messie. Enfin, la présence de ces femmes anticipe leur présence au tombeau de Jésus 2 jours plus tard et un chapitre plus loin. Ce tombeau qu'elles trouveront vide parce que Jésus sera ressuscité le premier jour de la semaine pour inaugurer le rétablissement de toutes choses, c'est-à-dire la réparation du monde sous l'autorité de Jésus, comme l'apôtre Paul nous le rappelle dans l'Épître aux Éphésiens. Il dit que le projet de Dieu a été de réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est sur terre et dans le ciel. L'auteur nous a donc montré que la souffrance de Jésus était complète, qu'elle était suffisante et maintenant qu'elle est efficace. Il n'en fallait pas moins, il n'en fallait pas plus, et ce que Jésus a accompli par sa souffrance, ça produit un effet puissant. C'est un peu comme quand j'ai préparé le vin chaud pour la collation tout à l'heure, et que j'ai mis dans le mélange un bâton de cannelle. Il n'en fallait pas moins pour réaliser la recette. Il n'en fallait pas plus non plus. Un bâton, c'était suffisant. Mais ce bâton de cannelle a aussi produit un effet puissant sur tout le mélange, sur tout le vin chaud, puisque ce bâton, complet et suffisant, a répandu son arôme dans toute la boisson. C'est un peu ce que Jésus lui-même a dit, concernant le royaume de Dieu qu'il était venu établir sur la terre par son œuvre à la croix, lorsqu'il a dit, plus tôt dans ce même récit de Matthieu, il a dit « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Un effet puissant donc, l'effet de son œuvre. Ce que Jésus a accompli est efficace. Sa souffrance a produit et continue de produire un effet puissant. Sa souffrance, on l'a dit, expie les péchés des croyants. Sa souffrance réconcilie les croyants avec Dieu pour toujours. Sa souffrance a fait trembler la terre. Sa souffrance a bouleversé la garde romaine comme elle a transformé la vie de millions de personnes au cours des 2 derniers millénaires. Quel est l'effet de la souffrance de Jésus dans votre vie aujourd'hui? Elle ne peut pas vous laisser indifférent. Elle nous oblige d'abord à nous positionner. Celui-ci est-il vraiment le Fils de Dieu? A-t-il vraiment offert le sacrifice ultime et définitif pour expier mes péchés et me réconcilier avec Dieu? Est-ce que je me repose entièrement et exclusivement sur lui pour le pardon de mes fautes? Est-ce que je compte sur lui pour pouvoir entrer dans la présence spéciale et glorieuse de Dieu? Est-ce que j'ai une relation personnelle avec Dieu fondée sur ce que Jésus a accompli? Est-ce que cette relation avec Dieu conditionne ma vie au point de me transformer, de changer mes priorités, de changer ma vision du monde, de changer mes aspirations, de changer mes désirs? Est-ce que la réalité des souffrances de Jésus en ma faveur se traduit en actes dans ma vie? Ou est-ce que finalement ça n'a pas tellement d'effet? Ce serait contradictoire avec la nature même de ses souffrances et de son œuvre à la croix. Est-ce que je participe à la diffusion irrépressible de cette bonne nouvelle dans le monde entier, à commencer par ma propre famille, mes enfants, mes propres amis, mes collègues et mes voisins? Est-ce que j'ai à cœur de participer à la diffusion de cette bonne nouvelle? Alors vous voyez, je le disais en introduction, je crains que la mort de Jésus a été un peu banalisée. On sait que Jésus a été crucifié. Dans nos églises évangéliques, on en parle beaucoup. Et dans d'autres églises, la crucifixion de Jésus est d'une telle évidence qu'on n'en parle plus. Il n'y a plus besoin d'apprendre aux gens que Jésus est mort sur la croix, tout le monde le sait. Du coup, que ce soit chez les croyants, chez les chrétiens de nom seulement, ou même chez les athées convaincus, on a perdu un peu le sens de l'extrême importance des souffrances de Jésus lors de sa crucifixion. Voilà, la mort de Jésus a été banalisée. Et peut-être qu'elle a été banalisée chez vous, comme chez moi, malgré nous. On s'y est quelque peu habitué. Il faut qu'on se rappelle, comme ce texte nous y a invité ce soir, il faut qu'on se rappelle que les souffrances et la mort de Jésus accomplissent précisément ce qu'il est venu accomplir. La souffrance de Jésus, symbolisée par la croix ici, commémorée par la Sainte Cène, la souffrance de Jésus est une souffrance complète, suffisante et efficace. Nous pouvons dire pour sûr que la mort de Jésus coïncide avec le plus grand tournant de l'histoire de l'humanité. Jésus est venu tourner cette page par sa souffrance et c'est fondamentalement la raison de nos réjouissances à Noël. Parce que si Jésus s'est fait homme, s'il est né parmi nous de la Vierge Marie, c'est parce qu'il est venu tourner cette page par ses souffrances. Il nous est né un Sauveur qui est le Christ le Seigneur. Amen. On va prier. Notre Dieu, notre Père, merci de nous rappeler par l'étude de ce texte quelle est l'extrême importance des souffrances de Jésus à l'occasion de sa crucifixion. Pardonne-nous d'avoir banalisé, bien malgré nous, souvent, les souffrances et la mort de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Et s'il te plaît, restaure en nous une juste appréciation de ce que Jésus a fait pour nous, par ta grâce, par ton amour. Nous demandons cela humblement, en son nom. Amen.